Quatrième partie. La dernière incarnation de Vautrin. Qu'y a-t-il, Madeleine ? Dit Madame Camusot en voyant entrer chez elle sa femme de chambre avec cet air que savent prendre les gens dans les circonstances critiques. Madame, répondit Madeleine, monsieur vient de rentrer du palais. Mais il a la figure si bouleversée, il se trouve dans un tel état que madame ferait peut-être mieux de l'aller voir dans son cabinet. A-t-il dit quelque chose ? Demanda Madame Camusot. Non, madame, mais nous n'avons jamais vu pareille figure à monsieur. On dirait qu'il va commencer une maladie. Il est jaune, il paraît être en décomposition et, sans attendre la fin de la phrase, madame Camusot s'élança hors de sa chambre et courut chez son mari. Elle aperçut le juge d'instruction, assis dans un fauteuil, les jambes allongées, la tête appuyée au dossier, les mains pendant, le visage pâle, les yeux hébétés, absolument comme s'il allait tomber en défaillance. « Qu'as-tu, mon ami ? » dit la jeune femme effrayée. « Ah, oh, ma pauvre Amélie, il est arrivé le plus funeste événement. J'en tremble encore. Figure-toi que le procureur général, non, que madame de Sérisy, que... je ne sais par où commencer. » « Commence par la fin, » dit madame Camusot. « Eh bien, au moment où, dans la chambre du conseil de la première, Monsieur Popinot avait mis la dernière signature nécessaire au bas du jugement de non-lieu rendu sur mon rapport qui mettait en liberté Lucien de Rubempré. Enfin, tout était fini. Le greffier emportait le plumitif. J'allais être quitte de cette affaire. Voilà le président du tribunal qui entre et qui examine le jugement. « Vous élargissez un mort !» me dit-il d'un air froidement railleur. « Ce jeune homme est allé, selon l'expression de M. de Bonald, devant son juge naturel. Il a succombé à l'apoplexie foudroyante. Je respirais en croyant à un accident. « Si je comprends, Monsieur le Président, a dit M. Popinot, il s'agirait alors de l'apoplexie de Pichegru. Messieurs, a repris le Président de son air grave, sachez que pour tout le monde, le jeune Lucien de Rubempré sera mort de la rupture d'un anévrisme. » Nous sommes tous entre-regardés. De grands personnages sont mêlés à cette déplorable affaire, a dit le président. Dieu veuille, dans votre intérêt, monsieur Camusot, quoique vous n'ayez fait que votre devoir, que madame de Sérisy ne reste pas folle du coup qu'elle a reçu, ou l'emporte, quasi morte. Je viens de rencontrer notre procureur général dans un état de désespoir qui m'a fait mal. Vous avez donné à gauche, mon cher Camusot, a-t-il ajouté en me parlant à l'oreille. Non, ma chère amie, en sortant, c'est à peine si je pouvais marcher. Mes jambes tremblaient tant que je n'ai pas osé me hasarder dans la rue, et je suis allée me reposer dans mon cabinet. Coquart, qui rangeait le dossier de cette malheureuse instruction, m'a raconté qu'une belle dame avait pris la conciergerie d'assaut, qu'elle avait voulu sauver la vie à Lucien, de qui elle est folle, et qu'elle s'était évanouie en le trouvant pendu par sa cravate à la croisée de la pistole. L'idée que la manière dont j'ai interrogé ce malheureux jeune homme, qui d'ailleurs entre nous était parfaitement coupable, a pu causer son suicide, m'a poursuivi depuis que j'ai quitté le palais, et je suis toujours près de m'évanouir. Eh bien, ne vas-tu pas te croire un assassin parce qu'un prévenu se pend dans sa prison au moment où tu l'allais élargir ? S'écria madame Camusot. Mais un juge d'instruction est alors comme un général qui a un cheval tué sous lui. « Voilà tout. Ces comparaisons, ma chère, sont tout au plus bonnes pour plaisanter, et la plaisanterie est hors de saison ici. Le mort saisit le vif dans ce cas-là. Lucien emporte nos espérances dans son cercueil. »« Vraiment ? » dit madame Camusot d'un air profondément ironique. « Oui, ma carrière est finie. Je resterai toute ma vie simple juge au tribunal de la Seine. » Monsieur de Granville était, avant ce fatal événement, déjà fort mécontent de la tournure que prenait l'instruction. Mais son mot à notre président me prouve que, tant que M. de Granville sera procureur général, je n'avancerai jamais. » Avancer. Voilà le mot terrible, l'idée que de nos jours change le magistrat en fonctionnaire. Autrefois, le magistrat était sur le champ tout ce qu'il devait être. Les 3 ou 4 mortiers des présidences de chambre suffisaient aux ambitions dans chaque parlement. Une charge de conseiller contenait un de brosse comme un mollet, à Dijon comme à Paris. Cette charge, une fortune déjà, voulait une grande fortune pour être bien portée. À Paris, en dehors du parlement, les gens de robe ne pouvaient aspirer qu'à 3 existences supérieures. Le contrôle général, les sceaux ou la simarre de chancelier. Au-dessous des parlements, dans la sphère inférieure, un lieutenant de présidial se trouvait être un assez grand personnage pour qu'il fût heureux de rester toute sa vie sur son siège. Comparez la position d'un conseiller à la cour royale de Paris, qui n'a pour toute fortune, en 1829, que son traitement, à celle d'un conseiller au Parlement en 1729. Grande est la différence. Aujourd'hui, où l'on fait de l'argent la garantie sociale universelle, on a dispensé les magistrats de posséder, comme autrefois, de grandes fortunes. Aussi les voit-on députés, pairs de France, entassant magistrature sur magistrature, à la fois juges et législateurs, allant emprunter de l'importance à des positions autres que celles d'où devrait venir tout leur éclat. Enfin, les magistrats pensent à se distinguer pour avancer, comme on avance dans l'armée ou dans l'administration. Cette pensée, si elle n'atterre pas l'indépendance du magistrat, est trop connue et trop naturelle. On en voit trop d'effets pour que la magistrature ne perde pas de sa majesté dans l'opinion publique. Le traitement payé par l'État fait du prêtre et du magistrat des employés. Les grades à gagner développent l'ambition. L'ambition engendre une complaisance envers le pouvoir. Puis l'égalité moderne met le justiciable et le juge sur la même feuille du parquet social. Ainsi, les 2 colonnes de tout ordre social, la religion et la justice, se sont amoindries au XIXe siècle, et l'on se prétend en progrès sur toute chose. « Et pourquoi n'avancerais-tu pas ?» dit Amélie Camusot. Elle regarda son mari d'un air railleur, en sentant la nécessité de rendre de l'énergie à l'homme qui portait son ambition et de qui elle jouait comme d'un instrument. « Pourquoi désespérer ? » reprit-elle en faisant un geste qui peignit bien son insouciance quant à la mort du prévenu. « Ce suicide va rendre heureuses les 2 ennemies de Lucien, Madame d'Espard et sa cousine, la comtesse Châtelet. Madame d'Espard est au mieux avec le garde des Sceaux, et par elle, tu peux obtenir une audience de sa grandeur où tu lui diras le secret de cette affaire. Or, si le ministre de la Justice est pour toi, qu'as-tu donc à craindre de ton président et du procureur général ?»«
Mais, monsieur et madame de Sérisy !» s'écria le pauvre juge. « Madame de Sérisy, je te le répète, est folle par ma faute, dit-on !»«
Eh ! Si elle est folle, juge sans jugement !» s'écria madame Camusot en riant. « Elle ne pourra pas te nuire. Voyons, raconte-moi toutes les circonstances de la journée. »
« Mon Dieu !» répondit Camusot, « au moment où j'avais confessé ce malheureux jeune homme et où il venait de déclarer que ce soi-disant prêtre espagnol est bien Jacques Collin, la duchesse de Maufrigneuse et madame de Sérisy m'ont envoyé, par un valet de chambre, un petit mot où elle me priait de ne pas l'interroger. Tout était consommé.
« Mais tu as donc perdu la tête ?» dit Amélie.
« Car sûr comme tu l'es de ton commis greffier, tu pouvais alors faire revenir Lucien, le rassurer adroitement et corriger ton interrogatoire.
Mais tu es comme madame de Sérisy, tu te moques de la justice !» dit Camusot, incapable de se jouer de sa profession.
« Madame de Sérisy a pris mes procès-verbaux et les a jetés au feu. »«
En voilà une femme, bravo !» s'écria madame Camusot.
« Madame de Sérisy m'a dit qu'elle ferait sauter le palais plutôt que de laisser un jeune homme qui avait eu les bonnes grâces de la duchesse de Maufrigneuse et les siennes aller sur les bancs de la cour d'assises en compagnie d'un forçat. « Mais Camusot, » dit Amélie, en ne pouvant pas retenir un sourire de supériorité, « ta position est superbe. »«
Ah oui, superbe. »«
Tu as fait ton devoir. »
Mais malheureusement et malgré l'avis jésuitique de monsieur de Granville qui m'a rencontré sur le quai Malaquais,
ce matin.
À quelle heure?
À 9 heures.
Oh, Camusot, dit Amélie en joignant ses mains et en les tordant. Moi qui ne cesse de te répéter de prendre garde à tout. Mon Dieu, ce n'est pas un homme, c'est une charrette de moellons que je traîne. Mais Camusot, ton procureur général t'attendait au passage. Il a dû te faire des recommandations.
Mais oui.
Et tu ne l'as pas compris? Si tu es sourd, tu resteras toute ta vie juge d'instruction sans aucune espèce d'instruction. Aie donc l'esprit de m'écouter,
dit-elle en faisant taire son mari qui voulut répondre.
Tu crois l'affaire finie? Dit Amélie.
Camusot regarda sa femme de l'air qu'ont les paysans devant un charlatan.
Si la duchesse de Maufrigneuse et la comtesse de Sérisy sont compromises, tu dois les avoir toutes deux pour protectrices, reprit Amélie. Voyons, madame d'Espard obtiendra pour toi du garde des Sceaux une audience où tu lui donneras le secret de l'affaire, et il en amusera le roi. Car tous les souverains aiment à connaître l'envers des tapisseries et savoir les véritables motifs des événements que le public regarde passer bouche béante.
Dès lors, ni le procureur général, ni monsieur de Sérisy ne seront plus à craindre.
Quel trésor qu'une femme comme toi ! S'écria le juge en reprenant courage.
Après tout, j'ai débusqué Jacques Collin. Je vais l'envoyer rendre ses comptes en cour d'assises. Je dévoilerai ses crimes. C'est une victoire dans la carrière d'un juge d'instruction qu'un pareil procès.
Camusot, reprit Amélie en voyant avec plaisir son mari revenu de la prostration morale et physique où l'avait jeté le suicide de Lucien de Rubempré, le président t'a dit tout à l'heure que tu avais donné à gauche. Mais ici, tu donnes trop à droite. Tu te fourvoies encore, mon ami. »
Le juge d'instruction resta debout, regardant sa femme avec une sorte de stupéfaction.
« Le roi, le garde des Sceaux, pourront être très contents d'apprendre le secret de cette affaire, et tout à la fois très fâchés de voir des avocats de l'opinion libérale traînant à la barre de l'opinion et de la cour d'assises, par leur plaidoirie, des personnages aussi importants que les Sérisy, les Maufrigneuse et les Grandlieu, enfin tous ceux qui sont mêlés directement ou indirectement à ce procès.
« Ils y sont fourrés tous, je les tiens !» s'écria Camusot. Le juge, qui se leva, marcha par son cabinet à la façon de Sganarelle sur le théâtre quand il cherche à sortir d'un mauvais pas.
« Écoute, Amélie, » reprit-il en se posant devant sa femme. Il me revient à l'esprit une circonstance, en apparence minime, et qui, dans la situation où je suis, est d'un intérêt capital. Figure-toi, ma chère amie, que ce Jacques Collin est un colosse de ruse, de dissimulation, de rouerie, un homme d'une profondeur. Oh, c'est quoi, le Cromwell du bagne ! Je n'ai jamais rencontré pareil scélérat. Il m'a presque attrapé.
Mais en instruction criminelle, un bout de fil qui passe vous fait trouver un peloton avec lequel on se promène dans le labyrinthe des consciences les plus ténébreuses ou des faits les plus obscurs. Lorsque Jacques Collin m'a vu feuilletant les lettres saisies au domicile de Lucien de Rubempré, mon drôle y a jeté le coup d'œil d'un homme qui voulait voir si quelque autre paquet ne s'y trouvait pas. Et il a laissé échapper un mouvement de satisfaction visible. Ce regard de voleur évaluant un trésor, ce geste de prévenu qui se dit « j'ai mes armes » m'ont fait comprendre un monde de choses. Il n'y a que vous autres femmes qui puissiez, comme nous et les prévenus, lancer dans une œillade échangée des scènes entières où se révèlent des tromperies compliquées comme des serrures de sûreté. On se dit, vois-tu, des volumes de soupçons en une seconde. C'est effrayant. C'est la vie ou la mort dans un clin d'œil. Le gaillard a d'autres lettres entre les mains, ai-je pensé. Puis, les 1000 autres détails de l'affaire m'ont préoccupé. J'ai négligé cet incident, car je croyais avoir à confronter mes prévenus et pouvoir éclaircir plus tard ce point de l'instruction. Mais regardons comme certain que Jacques Collin a mis en lieu sûr, selon l'habitude de ces misérables, les lettres les plus compromettantes de la correspondance du beau jeune homme adoré de tant de... Et tu trembles, Camusot ? Tu seras président de chambre à la cour royale, bien plus tôt que je ne le croyais ! S'écria Madame Camusot, dont la figure rayonna. Voyons, il faut te conduire de manière à contenter tout le monde, car l'affaire devient si grave qu'elle pourrait bien nous être volée. N'a-t-on pas ôté des mains de Popinot, pour te la confier, la procédure dans le procès en interdiction intenté par Madame à Monsieur d'Espard ? Dit-elle pour répondre à un geste d'étonnement que fit Camusot. Eh bien, le procureur général, qui prend un intérêt si vif à l'honneur de monsieur et de madame de Sérisy, ne peut-il pas évoquer l'affaire à la cour royale et faire commettre un conseiller à lui pour l'instruire à nouveau ? Ah, ça, ma chère, où donc as-tu fait ton droit criminel ? S'écria Camusot. Tu sais tout, tu es mon maître. Comment ? Tu crois que demain matin, monsieur de Granville ne sera pas effrayé de la plaidoirie probable d'un avocat libéral, que ce Jacques Collin saura bien trouver ? Car on viendra lui proposer de l'argent pour être son défenseur. Ces dames connaissent leur danger aussi bien, pour ne pas dire mieux, que tu ne le connais. Elles en instruiront le procureur général, qui déjà voit ses familles traîner bien près du banc des accusés, par suite du mariage de ce forçat avec Lucien de Rubempré, fiancé de Mademoiselle de Grandlieu. Lucien, amant d'Esther, ancien amant de la duchesse de Maufrigneuse, le chéri de Madame de Sérisy. Tu dois donc manœuvrer de manière à te concilier l'affection de ton procureur général, la reconnaissance de Monsieur de Sérisy, celle de la marquise d'Espard, de la comtesse Châtelet, à corroborer la protection de Madame de Maufrigneuse par celle de la maison de Grandlieu, et à te faire adresser des compliments par ton président. Moi, je me charge de Mesdames d'Espard, de Maufrigneuse et de Grandlieu. Toi, tu dois aller demain matin chez le procureur général. Monsieur de Granville est un homme qui ne vit pas avec sa femme. Il a eu pour maîtresse, pendant une dizaine d'années, une Mademoiselle de Bellefeuille, qui lui a donné des enfants adultérins, n'est-ce pas ? Eh bien, ce magistrat-là n'est pas un saint, c'est un homme tout comme un autre. On peut le séduire, il donne prise sur lui par quelque endroit. Il faut découvrir son faible, le flatter. Demande-lui des conseils, fais-lui voir le danger de l'affaire. Enfin, tâchez de vous compromettre de compagnie. Et tu seras... Non, je devrais baiser la marque de tes pas, dit Camusot en interrompant sa femme, la prenant par la taille et la serrant sur son cœur. Amélie, tu me sauves. C'est moi qui t'ai remorqué d'Alençon à Mantes et de Mantes au tribunal de la Seine, répondit Amélie. Eh bien, sois tranquille. Je veux qu'on m'appelle Madame la Présidente dans 5 ans d'ici. Mais, mon chat, pense donc toujours pendant longtemps avant de prendre des résolutions. Le métier de juge n'est pas celui d'un sapeur-pompier. Le feu n'est jamais à vos papiers. Vous avez le temps de réfléchir. Aussi, dans vos places, les sottises sont-elles inexcusables. La force de ma position est tout entière dans l'identité du faux prêtre espagnol avec Jacques Collin, reprit le juge après une longue pause. Une fois cette identité bien établie, quand même la cour s'attribuerait la connaissance de ce procès, ce sera toujours un fait acquis dont ne pourra se débarrasser aucun magistrat, juge ou conseiller. j'aurais imité les enfants qui attachent une ferraille à la queue d'un chat. La procédure, n'importe où elle s'instruise, fera toujours sonner les fers de Jacques Collin. « Bravo !» dit Amélie. Et le procureur général aimera mieux s'entendre avec moi qui pourrait seul enlever cette épée de Damoclès suspendue sur le cœur du faubourg Saint-Germain qu'avec tout autre. Mais tu ne sais pas combien il est difficile d'obtenir ce magnifique résultat. Le procureur général et moi tout à l'heure dans son cabinet, nous sommes convenus d'accepter Jacques Collin pour ce qu'il se donne, pour un chanoine du chapitre de Tolède, pour Carlos Herrera. Nous sommes convenus d'admettre sa qualité d'envoyé diplomatique et de le laisser réclamer par l'ambassade d'Espagne. C'est par suite de ce plan que j'ai fait le rapport qui met en liberté Lucien de Rubempré, que j'ai recommencé les interrogatoires de mes prévenus en les rendant blancs comme neige. Demain, messieurs de Rastignac, Bianchon et je ne sais qui encore doivent être confrontés avec le soi-disant chanoine du chapitre royal de Tolède. Ils ne reconnaîtront pas en lui Jacques Collin, dont l'arrestation a eu lieu en leur présence, il y a 10 ans, dans une pension bourgeoise, où ils l'ont connu sous le nom de « Vautrin ».